Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Normand, le cofondateur de Greenly, la plateforme des entreprises qui s'engagent pour le climat. Et Greenly dresse un bilan des émissions de gaz à effet de serre, mais pas seulement, elle accompagne les entreprises dans leur stratégie climat. Salut, je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte.
Bonjour Alice, très heureux d'être ici avec toi.
Je suis ravie parce que, en fait, toutes les entreprises en ce moment s'engagent pour une neutralité carbone à horizon 2030-2050. Il n'y a pas trop d'autres dates que 2030 et 2050 en ce moment. Beaucoup aussi me parlent du scope 1, scope 2, donc émissions directes. Et sur le scope 3, il y a encore un petit peu d'opacité. Et puis surtout des difficultés en termes de calcul. Est-ce que c'est justement une des solutions que propose Greenly?
Exactement. En fait, beaucoup d'entreprises s'engagent pour le climat, mais quand on regarde la proportion des émissions mondiales qui font l'objet d'un suivi, d'un pilotage, on est à peu près à 20%. Donc, c'est surtout les grandes entreprises, celles qui sont obligées de le faire parce qu'elles sont dans des secteurs qui émettent énormément, hein, dans le pétrole, l'automobile, la construction, etc. Greenly cherche à étendre la couverture des entreprises qui suivent leurs émissions, donc pour passer de 20 à 80 à 100%, parce que ce chiffre de 2030, il correspond en fait à un objectif de réduction de 50% de nos émissions par rapport à, en gros, 2020. Quoi.
Donc, c'est l'UE qui a demandé ça, c'est l'Union européenne, hein, qui parlait de 55 même, je crois.
Voilà, c'est la trajectoire de décarbonation qui est fixée par les accords de Paris et que l'UE a reprise pour elle-même et que chaque pays engagé décline à sa façon, secteur par secteur. Donc, c'est extrêmement difficile de réduire ces émissions par deux si il n'y a qu'un cinquième des émissions qui font l'objet d'un suivi. L'approche de Greenly, ça a été de dire comment est-ce qu'on démocratise ce bilan des émissions GES à toutes les entreprises et en particulier à celles qui sont exclues de ce pilotage, les PME. Et pour ça, on veut justement montrer que ça peut être aussi simple de suivre ces émissions de faire sa comptabilité. Toutes les entreprises arrivent bien à faire leur comptabilité financière. Ce n'est pas un exercice évident, mais il y a des logiciels, même quand vous êtes débutant, qui vous accompagnent, qui vous guident, qui vous prennent par la main. On fait la même chose pour le bilan carbone. On a des sociétés qui ont 10 salariés, comme on en a qui ont 10 000 qui travaillent avec nous. Mais l'important, leur point commun, c'est qu'à chaque fois, c'est des entreprises qui démarrent leur trajectoire climat et qui ne savent pas forcément par où commencer ou qui n'ont pas assez de gens formés en interne pour le faire facilement. Et notre travail à nous, c'est de démontrer qu'on peut décomposer les étapes, que les données sont faciles à obtenir, que toute l'expertise, on peut la mettre dans le logiciel et qu'on a des gens pour vous accompagner.
Et est-ce que aujourd'hui, donc là, c'est pas obligatoire pour les entreprises de mesurer leur empreinte carbone et encore moins pour les PME. Mais est-ce que c'est pas aussi un levier compétitif de pouvoir calculer son empreinte carbone et de la réduire au maximum, puisque finalement tout le monde est plus ou moins le scope 3 de quelqu'un. Donc en étant le plus neutre possible, finalement, il baisse aussi la neutralité carbone de son partenaire.
Alors, absolument. Les entreprises ne se mettent pas à suivre leurs émissions juste parce qu'on leur a dit que 80% ne le faisaient pas. Il faut qu'elles trouvent un intérêt concret. Elles veulent gagner de l'argent, elles veulent exister, elles veulent croître. Et donc, le plus possible, il faut aussi pouvoir montrer que s'engager pour le climat, ça va dans le sens de son business. On peut tout à fait en faire un levier compétitif. Donc, les grandes entreprises sont obligées de suivre leurs émissions quand elles ont plus de 500 salariés. Ça baisse à 250. Mais nous, une majorité de nos clients n'ont pas d'obligation légale de le faire. En revanche, ils sont, comme tu l'as dit, le fournisseur d'une entreprise qui, elle, est obligée ou en a fait une politique importante. Et à ce moment-là, les entreprises les plus structurées, elles, quand elles s'engagent à horizon 2030 ou 2050 pour être neutre ou en tout cas avoir divisé leurs émissions par deux ou trois, en fait, elles s'engagent pour leur chaîne d'approvisionnement. Assez rapidement, on voit apparaître dans les processus d'achat un critère d'éco-responsabilité. Donc, de la même manière que si je veux travailler avec une grande banque ou un constructeur automobile ou je ne sais quelle grosse entreprise, on va me demander ce que je fais en matière de protection des données, de stabilité financière. Et bien, de plus en plus, on me demande aussi si j'ai fait un bilan carbone. Et comme l'essentiel des entreprises n'en ont pas fait, en fait, celui qui en a fait un, il en tire tout de suite un avantage concurrentiel. Et beaucoup de nos clients sont dans cette démarche-là. Après, ça va même parfois plus loin. Il y a des banques qui commencent à réduire le taux d'intérêt.
Des investissements, tout à fait.
Pour les emprunts ou pour des sociétés à impact, parce qu'on essaye de rediriger la finance vers le financement de la transition énergétique et montrer qu'on est soi-même une solution plus engagée, plus transparente, une alternative éco-responsable, peut être un moyen d'avoir des financements plus facilement. Donc, il y a tout un tas de leviers, je dirais plutôt business, qui commencent à pousser, en tout cas en France, les entreprises, même petites, à faire leur bilan carbone. Et je parlerai plus de normes sociales que de normes législatives. Là.
On a eu dans l'empreinte Grégoire Chauvière-Ledrian, le directeur du bureau de Paris de la BEI, qui justement investit aujourd'hui massivement dans les entreprises qui s'engagent pour le climat. Et justement, c'est un de leurs critères. Et aujourd'hui, ils investissent plus de 34 milliards dans ces entreprises-là. Donc, clairement, on voit qu'il y a une vraie tendance. Et comme tu le dis, c'est devenu un levier à la fois compétitif, marketing. Par contre, ce n'est pas un levier de com. Et ça, l'ADEME le rappelle, c'est qu'il ne faut pas parler de neutralité carbone, d'engagement pour communiquer sur un produit ou un service. Là, on peut se faire un peu tacler de greenwashing, impactwashing.
C'est-à-dire que souvent, la com, en fait, est assez mal faite parce que, et on le voit par exemple aux États-Unis, où on travaille de plus en plus, les entreprises avec qui on discute nous disent « je veux pouvoir dire que je suis neutre en carbone ». Et en fait, la neutralité carbone, c'est un concept un peu compliqué parce que le monde n'étant pas neutre en carbone, c'est difficile d'expliquer que soi-même, on est neutre quand malgré tout, on émet, et juste parce qu'on a peut-être financé quelques projets de plantation d'arbres, mettons.
C'est la compensation, quoi.
Donc, je pense que moi, à mon avis, il faut communiquer et il faut faire savoir et Exactement. Il faut être transparent. Mais encore faut-il le faire d'une façon qui est sincère. Parce que si on dit juste « je suis neutre en carbone », les connaisseurs vont se méfier un peu de l'effet « ah voilà, ok, j'ai rien à faire finalement, parce que je suis déjà parfait ». Donc, il y a, en tout cas en France, c'est très net, mais je pense en Europe, il y a cette idée de trajectoire. Net zéro, je m'engage sur une trajectoire qui veut dire en fait que j'accompagne le mouvement de l'économie mondiale vers la neutralité carbone. Donc oui, il faut atteindre la neutralité carbone, mais tant qu'on n'y est pas tous, c'est compliqué de dire qu'on l'est individuellement.
Est-ce que c'est possible du coup de mesurer avec précision cet impact carbone ?
Alors, oui, bien sûr. Alors, il y a précision et précision, c'est-à-dire que justement, pour rendre les choses abordable, accessible aux PME, il faut aussi comprendre très vite où sont les grandes masses. Donc, quand on accompagne une entreprise pour faire son bilan GES, on va regarder ses émissions directes, donc sa consommation d'énergie fossile, ses émissions indirectes d'électricité et ses émissions indirectes, ses autres émissions indirectes, donc ses achats de biens et services, ses transports, etc. Et pour ça, il faut aller chercher beaucoup de données d'activité de l'entreprise. Et souvent, ce qui va bloquer, c'est que les PME n'ont pas accès à des données très fines sur, mettons, leurs fournisseurs. Donc, on connaît sa consommation électrique, parfois, quand on est propriétaire de son logement ou qu'on paye directement, mais ce n'est pas le cas de quelqu'un qui serait dans une foncière. Bon. Donc, on peut toujours trouver des proxys. Mais ce qui est important, c'est d'être précis sur les grandes masses, sur les postes principaux de ces émissions. Si je suis une entreprise de la tech, je n'ai pas besoin d'être hyper précis sur mes consommations carbone de capsules Nespresso, par exemple, parce que je sais que si je dépense moins de 500 euros là-dessus par an, c'est rien par rapport aux 10, 50 000 euros que je dépense chaque mois dans mon cloud. Donc là, ça vaut vraiment le coup d'être très précis sur son cloud, et on peut l'être, et parce que c'est là que je vais avoir les plus gros leviers de réduction. On voit beaucoup de fonds d'investissement dont on fait le bilan carbone qui, pareil, doivent être précis d'abord sur leurs investissements. Parce que c'est 95%. Donc, en fait, il y a toujours une méthode rapide, un peu moins précise pour estimer les émissions, notamment en prenant les dépenses et en regardant dans quelle catégorie tombe cette dépense. Et en fonction de cette catégorie, en donnant une estimation d'émissions. Mais dès que c'est une catégorie importante, il faut basculer d'une approche qu'on appelle monétaire à une approche physique. Donc, on ne va pas regarder combien j'ai dépensé en cloud, ce que c'est $1 million. On va regarder combien de kilowattheures finalement, ça représente à partir de ma consommation de VCPU, etc. Mais c'est la même chose avec des achats de clous ou de boulons. Si je dépense 10 euros, on s'en fiche. Si je dépense 1 million, il faut aller compter le nombre de clous et de boulons et regarder à la maille de chacun de ces objets quelles sont ses émissions. Donc, c'est toujours possible d'être précis. Mais comme on est face à des entreprises qui n'ont pas que ça à faire non plus, il faut être précis là où ça va instruire un plan d'action, une réduction. Et donc, c'est un peu cette approche qu'on défend, Pareto, quoi. Concentrons-nous sur les principaux postes d'émission, précisons et arrivons, essayons de faire votre bilan rapidement pour vite passer à l'action et pas se perdre et se noyer dans le détail.
Est-ce que c'est possible d'être net zéro carbone sans compenser?
Non.
Non, bah non. Enfin, même nous, en fait, rien que le fait de respirer, je crois qu'on émet, non?
Oui, alors l'humain émet, comme les vaches, comme tout le monde, du méthane, etc.
C'est bien, je porte bien mon nom.
Pardon. Et dans notre activité de tous les jours, on est quand même tributaire de l'environnement économique où on est. Donc, l'essentiel de nos transports sont carbonés. L'essentiel de nos bâtiments sont quand même chauffés au gaz, encore, même si c'est interdit pour les constructions futures. Le mix énergétique français est très... ne représente pas du tout le mix mondial, donc il est très spécifique. L'essentiel de notre énergie est décarboné. Le mix renouvelable nucléaire est beaucoup plus élevé que dans les autres pays, mais il subsiste quand même 20 ou 30% d'énergie fossile quand il y a un manque de capacité. Donc, on ne peut pas vivre, en tout cas en France, et encore moins dans le reste du monde, sans émettre. Donc, tout émet. Par contre, on peut aller vers une trajectoire de réduction. Si vous regardez le rapport du GIEC sur les moyens d'arriver au net zéro, il se résume assez bien, en fait. Il dit tout ce qui, dans l'économie réelle, s'appuie sur des énergies fossiles, donc c'est pas que la grille électrique, c'est le transport, c'est le logement, tout ça doit être électrifié. Il faut tout électrifier, votre voiture, votre machine en usine, votre tracteur, votre immeuble. Mais il faut que cette électricité soit décarbonée. Et à ce moment-là, on aura fait 80% du travail, mais il restera un certain nombre d'émissions. Et ça, en revanche, d'ici là, on espère avoir fait suffisamment de progrès dans les projets de capture de puits de carbone pour que les émissions nettes soient réduites. Et le net zéro, c'est quand la somme des émissions est égale à la somme de la capture. Donc, le net zéro, est, dans sa définition même, inclut la compensation. Le problème, c'est de croire qu'on peut y arriver tout seul, tout de suite, sans faire d'efforts de réduction, en quelque sorte.
Est-ce que tu penses que ce serait intéressant que tout le monde, tous les particuliers aussi, au-delà des entreprises, puissent calculer leur empreinte carbone et qu'on ait peut-être un... Je ne sais pas si on... Pas un quota, mais peut-être... je ne sais pas si ce serait une norme carbone à terme.
C'est sur ce postulat qu'on a démarré Greenly. Donc, j'étais avant dans le quantified self, la quantification de soi. J'étais dans une entreprise qui vendait des objets connectés pour suivre sa santé. Et je les intégrais au système de santé pour générer des mécaniques de prévention. Et l'origine de Greenly était de se dire, est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour l'empreinte carbone? Et donc, avec mes cofondateurs, on a d'abord lancer une application mobile personnelle pour les particuliers qui calcule automatiquement votre empreinte carbone à partir de vos dépenses bancaires en se connectant à votre appli bancaire. Donc, l'appli est toujours disponible, elle est gratuite. Et effectivement, on tombe assez vite, assez bien sur la moyenne française. Si vous gagnez en moyenne, ce qu'un Français moyen gagne, 27 000 euros, vous êtes à peu près à 11 tonnes de CO2 par an. Plus vous êtes riche, plus votre maison est grande, plus votre voiture consomme, plus vous voyagez. Donc, vous êtes plutôt comme un Américain à 20 tonnes de CO2 par an. Et pour mémoire, l'objectif 2050, c'est 2 tonnes.
Moi, je suis à 2,5. Moi, je suis une amiche, je sais. Je sais.
Alors,
je suis très déjà... Ouais, non, mais
c'est exceptionnel et il doit y avoir... Peu de voyages,
sans doute
aucune viande, peu d'achats textiles neufs, etc. En tout cas, c'est possible de le quantifier. Clairement, les changements de comportement ont le plus d'impact chez les gens les plus riches. Parce que
bien sûr.
C'est eux qui émettent le plus, en fait. C'est compliqué de taxer les gens qui, c'était le problème des gilets jaunes, qui eux-mêmes sont déjà dépendants du pétrole pour leur quotidien. En tout cas, ça ne passe pas. Ils n'acceptent pas ça.
Mais c'est normal, puisqu'en fait, ils ne peuvent plus sinon travailler. En fait, c'est un peu ce que je reproche aujourd'hui à l'écologie et à ceux qui sont uniquement écolos, c'est-à-dire qui oublient d'aimer les hommes, les humains aussi, et qui pensent qu'en fait, tout le monde va pouvoir électrifier sa voiture, manger bio, etc. Non, en fait, trois quarts de la population ne peut pas. Même.
Et les changements de comportement ont beaucoup plus d'impact chez les plus riches. Et il y a toute une école économique qui veut justement taxer les plus riches sur leur carbone. C'est des travaux autour de Thomas Piketty et de Lucas Chancel qui prônaient justement une quantification de toute l'empreinte carbone. Alors, en tout cas, la techno existe. Ça pourrait complètement faire l'objet d'une assiette fiscale. Nous, notre parti pris, ce n'était pas la contrainte, mais plutôt le nudge et comment vous encourager à identifier des consommations plus responsables. Sur une dépense donnée, vous suggérez une alternative.
Moi, tu sais, quand j'ai calculé, que j'ai mis en story sur Instagram, tout le monde s'est mis à la calculer parce que c'était super sympa. Enfin, c'était hyper ludique. Et quand tu dis le nudge, je pense que ça marche vraiment. Le côté donner envie, en fait, faire mieux. Et puis, une fois que tu as un chiffre, en fait, et que tu as un objectif, c'est pour ça que c'est important de calculer. Bah, tu mets en action, tu crées un plan d'action et tu vas, et même en tant que particulier, toi aussi tu dis, bon, bah, attends, là-dessus, je vais peut-être arrêter de manger de la viande tous les jours. Voilà. Et tu vois l'impact tout de suite qui descend.
Absolument. Et puis, passer de, disons, 10 ou 20 tonnes à 2 tonnes, c'est assez radical quand même.
Je connais des gens
qui le font, mais il ne faut pas oublier, justement, pour moi, ça fait partie un peu de ce qui peut être décourageant pour les gens. C'est quelque chose d'aussi radical. Alors que quand on regarde ce qu'on demande aux entreprises, on ne leur demande pas tout de suite d'atteindre l'objectif de 2050. On leur demande de s'engager sur une trajectoire de réduction de 5 à 8% par an selon les secteurs. Et ça, c'est assez facile. Je veux dire, j'arrête la viande je réduis la viande, par exemple, je réduis déjà de 10%. Et 10%, c'est peut-être l'objectif que je dois atteindre dans les 2 ans. Et puis, en attendant, je vis dans un monde où l'automobile s'électrifie, où la grille s'électrifie. Donc, il y a une partie de mon effort peut m'amener à 30 ou 40% du chemin. Et puis, en tout cas, je suis un optimiste, la grille électrique, la nature de mon logement, le progrès économique m'accompagnent pour faire le reste du chemin. Quoi.
Oui, de toute façon, le GIEC le disait, si on faisait uniquement de la sobriété, puisque c'est quand même la recommandation première du GIEC, c'est une consommation plus sobre, une production plus sobre, etc. Il faudrait qu'on vive 70 ans comme on a vécu pendant le premier confinement pour rester sous les 1,5. Donc, il va falloir forcément faire de la tech for good.
C'est le problème de...
Et décarboner, il faut décarboner.
C'est le problème d'un discours trop décroissant sur le sujet. C'est que même si mathématiquement, c'est une bonne façon d'arriver au résultat, si vous dégoûtez 90% des gens, vous n'arriverez nulle part.
Des gens qui vont vivre 70 ans en confinement, voilà. C'est un non-sens absolu.
Et puis, il y a un autre problème, c'est que quand bien même les pays riches y arriveraient, vous avez le reste du monde qui a quand même soif de bien-être. Et le bien-être, ça reste l'accès à une énergie pas chère et abondante pour beaucoup de gens. Et donc, n'être que dans le contrôle de la consommation pose un problème d'équité et puis, en fait, de réalisme, tout simplement. Alors que l'innovation technologique, qui n'est pas la seule solution, loin de là, est quand même un moyen désolé pour l'anglicisme, de scaler les choses, donc de le généraliser à plus de monde.
Et d'embarquer plus de monde aussi, puis si on trouve un challenge, en fait, sur ces nouvelles technologies.
Je pense que de dire qu'on a déjà les technologies disponibles pour décarboner, ce n'est qu'à moitié vrai. C'est-à-dire que certes, le renouvelable existe, certes, le nucléaire existe, mais il n'existe pas dans des conditions qui permettent de le généraliser à une vitesse suffisante pour décarboner toute la grille électrique, rendre ça accessible à tous les pays du monde. Aujourd'hui, si je suis le chef d'une collectivité locale en Inde, ça reste plus intéressant pour moi de construire une centrale à charbon qu'une mini-centrale éolienne ou nucléaire ou je ne sais quoi.
C'est ça qui est fou, c'est que j'ai l'impression qu'il y a toujours plein de centrales, plein de, d'énergie fossile qui se crée encore.
Alors que ah ça bah c'est la majorité des énergies qui se créent sont encore fossiles, parce que l'innovation, ce n'est pas la capacité technique de produire quelque chose de décarboné, c'est le fait de le rendre à un coût plus intéressant qu'une énergie carbonée. Donc, il ne faut pas juste... Enfin, la régulation peut taxer l'énergie carbonée et donc rendre plus intéressant économiquement l'énergie non carbonée, mais c'est encore mieux quand le marché le fait tout seul, quoi.
Et donc, quelles sont les perspectives pour Greenly maintenant que vous avez quand même un peu étoffé le concept et que j'ai l'impression que vous avez levé des fonds là récemment, non ?
On a levé 21 millions d'euros en série A et puis on avait levé en tout 3 millions auparavant, donc on est quasiment à 25. Alors, à quoi sert cet argent ? Donc, en l'espace d'un an et demi, on a convaincu 500 entreprises de faire leur bilan carbone avec nous. Donc, je pense qu'on est une des plateformes, peut-être la plateforme qui grossit le plus vite dans le monde sur ce sujet. On est sur un sujet où il faut aller très, très vite, pas seulement pour des raisons morales ou climatiques, mais aussi parce que le bilan carbone d'une entreprise, comme c'est aussi le résultat du bilan carbone de tous ses fournisseurs, vous avez des réseaux, des effets de réseau très important. Et donc, plus vite on grossit, plus vite on peut devenir la plateforme de référence.
Presque un label, en fait.
Un label, mais aussi, pourquoi est-ce que j'irai ailleurs que chez Greenly si c'est chez eux que je trouve les informations les plus fines, puisqu'ils ont fait 50 autres entreprises de mon industrie auxquelles je vais pouvoir me comparer, etc., etc. Donc, nous, on a un impératif de croissance extrêmement rapide pour toutes ces raisons, pour aider à faire le bilan carbone, à formaliser des plans d'action, une stratégie de réduction, engager les salariés, donc les former à devenir eux-mêmes des experts climat, et engager les fournisseurs de nos clients, puisque au bout d'un moment, si vous voulez réduire, il faut avoir une politique d'achat responsable. 500 clients, c'est bien, mais je pense qu'il nous en faut 5 millions, parce que sinon le problème, on l'aura qu'à moitié réglé. Donc la perspective, c'est de continuer à grossir en France, c'est d'imposer finalement des standards technologiques. Nous, on se branche au logiciel financier des entreprises et à chaque achat, on fait correspondre une estimation carbone et après, on vient préciser si ça vaut le coup. Donc, on peut se brancher à tous les logiciels d'achat des petites et des grandes entreprises. On travaille avec plusieurs banques, on travaille avec une filiale d'LVMH, on travaille avec des entreprises dans l'automobile. Et après, on les aide à engager leurs fournisseurs. Et puis, on commence à travailler avec des entités publiques. Donc, les achats de l'État eux-mêmes pourraient scanner à chaque fois ce qu'ils font en termes d'empreinte carbone. En France, on grossit l'équipe au UK et mon cofondateur, Mathieu, s'est installé à New York, où là, on est face à un public beaucoup moins en avance qu'en France sur ces sujets.
Tout le monde me dit que les États-Unis sont hyper en avance, c'est faux ?
Il n'y a pas du tout autant de podcasts comme celui-ci. De gens qui s'intéressent au sujet. Ils n'ont pas, malheureusement, là-bas. Jean-Marc Jancovici.
Il n'y a personne.
Il y a Bill Gates.
Il y a Leonardo DiCaprio.
Et Leonardo, donc il y a quelques stars, il y a Iron Man, enfin voilà, il y a des gens, mais ils parlent pas à tout le monde, ils parlent que aux investisseurs, aux démocrates. En France, c'est un sujet qui est apolitique. Vous avez des gens à gauche comme à droite maintenant qui s'intéressent au sujet. C'est encore très polarisé aux États-Unis. Donc il y a des réglementations qui arrivent avec la Security Exchange Commission qui voudraient que toutes les entreprises cotées commencent à publier leurs émissions parce que sinon, en fait, elles mentent à leurs investisseurs sur leur valorisation réelle si elles n'incluent pas le risque climat. Donc, c'est le raisonnement de l'autorité des marchés financiers américains, c'est votre valorisation induit vos investisseurs en erreur si vous n'êtes pas transparent là-dessus. Donc, c'est un peu une extension de leur mandat, mais ce qui est intéressant. Et donc, ça arrive aux États-Unis. Mais ce que je veux dire, ça arrive à un point où on était il y a 5 ou 10 ans en Europe. Donc, il y a un retard considérable. Alors après, ils ont une foi dans le progrès et dans la technologie qui est plus forte quand même qu'en Europe. Donc, ils peuvent adopter beaucoup plus vite des nouvelles technologies. Et nous, quand on se développe là-bas, on voit bien que les cabinets de conseil, les entreprises hésitent moins longtemps à démarrer. Mais ils partent de plus loin.
Est-ce que tu vois parfois des entreprises qui veulent un peu mettre sous le tapis Enfin, des choses à comptabiliser, par exemple, en disant,
c'est
un peu greenwashing, quoi.
C'est exactement ça. Quand on voit une entreprise qui vous dit qu'elle est neutre en carbone, ça veut dire qu'elle vous dit, j'ai calculé mes émissions et j'ai financé le même nombre de tonnes de CO2 en forêt ou ce que vous voulez. Mais en fait, quand elle fait ça, elle n'a jamais calculé ses émissions sur un périmètre homogène. Donc, en fait, elle l'a fait sur son scope 1, son scope 2, elle l'a presque jamais fait sur son scope 3, parce qu'évidemment, ça lui coûterait deux fois plus cher. Donc, vous êtes presque toujours dans de l'hypocrisie.
C'est moins à savoir.
Voilà, quand quelqu'un vous dit qu'il est neutre en carbone, il a calculé un bout du périmètre et
ça veut rien dire. Ce qu'il a arrangé.
Exactement. Donc, c'est plutôt... on comprend la méfiance sur ce sujet.
Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur The Good. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.